Je voudrais vous poser cette première question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes, d'une façon générale dans l'espace francophone, avec votre propre expérience, sont suffisamment bien informés et que faut-il faire pour essayer de développer les moyens d'information?
Merci beaucoup. Eh bien, Jean Kouchner, je pensais que nous avions un deal. C'était de vous accompagner pour la bonne réussite de vos assises. Mais je ne savais pas qu'il fallait payer encore un tribut. Répondre, d'abord transmettre votre déclaration et la défendre devant les chefs d'État et de gouvernement, ce que je ferai avec grand plaisir. Mais s'agissant donc de la première question, elle pose la problématique aujourd'hui de ce que vous avez qualifié la révolution numérique. Notre monde est en train de subir des modifications extraordinaires du fait justement du numérique, de l'économie numérique, du fait de la révolution de l'information par les systèmes nouveaux d'information et de communication, que ce soit dans la banque, que ce soit dans le travail de tous les professionnels, quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, le numérique a apporté une transformation radicale. Et la presse n'échappe pas à cette révolution. Elle est aussi valable pour les médecins qui, il y a 20 ans, 30 ans, travaillaient encore avec des échographies, des données analogiques. C'est aussi vrai pour les géologues, les géophysiciens qui doivent faire l'exploration, qui travaillaient avec des cartes dans les vieux ordinateurs. Aujourd'hui, tout est numérique et ça offre des possibilités extraordinaires. Dans la presse, aujourd'hui, nous allons aller vers la télévision numérique en juin-juillet 2015. Et vous l'avez évoqué, le risque qu'il y a sur le papier, journal, objectivement, il faut dire, son avenir est incertain. Mais il ne faut pas pour autant s'en émouvoir, puisque ce qui est essentiel, c'est les contenus. Et les contenus resteront des écrits, que ce soit à travers le numérique, que ce soit sur l'écran, sur le papier, sur la télévision. Il faudra des journalistes pour écrire, pour commenter. Et je pense que c'est surtout cela le rôle. C'est donc les contenus qui sont importants. Maintenant, il est clair que chaque journaliste aujourd'hui doit pouvoir être formé et capable d'utiliser les outils nouveaux des technologies de l'information, de la communication. C'est simplement à ce niveau qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité, que donc dans les écoles de formation de journalistes, qu'on forme en même temps le journaliste télé ou le journaliste radio ou le journaliste de la presse dans les outils qui seront son quotidien. Ce quotidien sans lequel il ne pourra pas évidemment développer son métier, quel que soit par ailleurs ses talents. Je pense que donc c'est une opportunité pour tout le monde, et du fait que notre retard industriel pour les pays les moins avancés, comme l'Afrique, nous pouvons compenser à pas de géant ce gap industriel par justement l'égalité dans la révolution numérique. Il n'y a pas beaucoup d'investissements à faire, il s'agit juste de se mettre à l'ère du numérique pour quand même participer dans le concert du monde d'aujourd'hui. Et nos jeunes, je pense, doivent être préparés, et le sont d'ailleurs. Maintenant, les États doivent faire des efforts sur l'accès à Internet, qui reste très cher. Et c'est pourquoi au Sénégal, j'ai décidé que déjà tous les campus universitaires et bientôt tous les lycées seront des espaces ouverts où le Wi-Fi sera gratuit et où l'accès à l'Internet sera gratuit pour l'ensemble des étudiants, des élèves, afin que déjà cet environnement leur soit familier et accessible. Voilà, on leur donne les chances d'être au même pied d'égalité que les jeunes du Nord et des autres pays.
Merci, Monsieur le Président. Je vais donner, si vous le permettez, la parole à Ziad Maalouf.
Alors, nous allons parler dans quelques instants de journalisme, de la situation des journalistes. C'est Khadija qui va en parler. Mais restons peut-être sur le numérique. J'ai eu la chance pour Radio France Internationale de couvrir les élections de 2012 où vous avez été élu. On avait à l'époque, avec des blogueurs, on s'était amusé à comparer la stratégie numérique des deux principaux candidats, des candidats du second tour. Vous étiez loin devant Abdoulaye Wade dans ce domaine.
C'est normal.
Voilà, c'est normal. Quelle est votre pratique, quel est votre regard justement sur l'univers numérique? Vous avez été pendant ces élections par la suite assez actif sur Twitter, vous l'êtes moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près? Est-ce que de par vos fonctions, vous n'avez pas le temps et vous avez une certaine distance par rapport à cet univers?
Merci Jeanne. Vous avez raison, j'ai été très actif sur le net à l'époque où j'avais plus de temps. Moi-même, j'animais ma page Facebook, moi-même je tweetais. Évidemment, depuis, ce n'est plus la même chose. Mais en fait, je suis en train de me réorganiser puisque je ne peux pas me permettre de régresser dans ce domaine. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une donnée réelle dont il faut tenir compte pour la communication. Et je suis en train de me réorganiser pour que vraiment la page Facebook, tout comme le Twitter soit actif et que ce soit moi-même, autant que faire se peut, qui puisse participer au dialogue avec les amis. C'est vous dire qu'aujourd'hui, qu'on soit chef d'État, journaliste, tout ce qu'on veut, si on n'est pas connecté, c'est que vraiment on est out.
Vous avez mentionné d'ailleurs les changements par rapport au métier de géologue, de géophysicien, ça c'est votre métier d'origine, vous êtes aussi un ancien de la politique. Est-ce que vous avez vu des changements dans votre pratique, le fait de pouvoir être interpellé directement? Est-ce que vous voyez des interpellations? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé votre métier d'homme politique?
Oui, je peux vous dire que même dans notre vie de chef d'État, la révolution numérique a changé les pratiques et le protocole, puisqu'il fut un temps, les règles du protocole, comme vous le savez, sont des règles immuables, complètement fermées. Aujourd'hui, elles sont dépassées aussi, puisque lorsqu'un président prend son téléphone pour faire un texto, on considère que ce n'est pas très sérieux, alors qu'il faut bien communiquer, ne serait-ce qu'avec ses plus proches collaborateurs, et je le fais par texto, avec un certain nombre très limité, pour pouvoir quand même échanger, on peut, tout en travaillant, voir le message qui arrive, répondre, donner des instructions, etc. Ça, c'est dans la pratique de tous les jours. Le mail, c'est pareil. Donc, ce sont aujourd'hui des outils, bien sûr, qui sont modernes, qui viennent changer les règles du protocole. Et il faut que le protocole, bien sûr, s'adapte lui aussi à ces nouveaux instruments, parce que c'est à l'ère du temps et nous devons être à l'ère numérique. Je pense que oui, ça a changé quelque peu ma façon de travailler et ma façon d'être.
Restons encore un peu dans le numérique et parlons des blogueurs. En mai 2013, le Sénégal a expulsé un blogueur opposant politique également tchadien, Makaylan Gebla. Ça a été assez incompris de la part de votre pays. Il a d'ailleurs reçu depuis l'asile politique en France, donc une sorte de légitimation quand même de son statut et des dangers qu'il encourait. Est-ce que c'était une erreur, un mauvais message envoyé à la communauté des blogueurs? Et plus généralement, quel regard vous portez sur donc les blogueurs, ces personnes qui, tout un chacun qui peut communiquer, donner ses opinions ou diffuser des informations sérieuses sur Internet, etc.
Je vous remercie. Alors, je dois vous dire que ce n'était pas une erreur du tout. Nous sommes un État organisé qui a une vieille pratique de l'hospitalité. Ce n'est pas un hasard si le Sénégal a déjà reçu plusieurs anciens chefs d'État, mais aussi plusieurs opposants qui sont dans notre pays aujourd'hui. Mais seulement notre pays ne peut pas aussi être un pays à partir duquel on organise une déstabilisation contre quelque régime que ce soit. On doit être très clair là-dessus. Nous ne sommes pas là pour orchestrer des changements anticonstitutionnels vis-à-vis de quelque pays que ce soit. Par contre, tous les journalistes qui, dans le respect de la liberté de la presse et de relations nécessaires, de bon voisinage entre le Sénégal et leur pays d'origine, ils n'ont aucun problème. Mais lorsque le gouvernement tchadien, à plusieurs reprises, avec des documents à l'appui, saisit notre gouvernement pour se plaindre des agissements de ce journaliste, de ce blogueur et des interconnexions, ils sont même allés jusqu'à poser des actes vraiment de stabilisation, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a eu suffisamment de plaintes et nous avons suffisamment interpellé le journaliste par nos services pour attirer son attention. Il a continué. Écoutez, la seule chose qu'on pouvait lui dire, c'est d'aller continuer son activité ailleurs, puisque nous avons quand même à respecter également et à préserver les relations de bon voisinage entre le Tchad et le Sénégal. Et il n'a pas été contraint, mais on lui a dit, vous choisissez le pays de votre choix. C'est lui qui a choisi le pays de destination. On l'a ramené jusqu'à la frontière de ce pays, comme c'était un pays frontalier. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Mais nous avons encore chez nous énormément de journalistes qui viennent d'autres pays, et beaucoup d'autres pays d'ailleurs nous en veulent. Nous les protégeons. Mais le Sénégal, quand même, ne peut pas être un pays où on s'installe pour après essayer de déstabiliser. Tant que c'est la liberté de la presse, nous n'avons aucun problème. Mais voilà ce qui s'est passé pour le cas de ce journaliste, c'est rien d'autre.
Khadija Ridouane.
Monsieur le Président, donc vous parlez de liberté des journalistes. Vous avez parlé de liberté pour les journalistes qui s'installent au Sénégal. Qu'en est-il de la liberté des journalistes au Sénégal? Et j'en viens à la presse en ligne qui aujourd'hui s'installe, qui a une activité au Sénégal. Et il y a un débat sur la régulation de cette presse en ligne. Et je reprends les propos du ministre de la Communication qui disait que, évidemment, ce que vous avez dit en prélude de cette réunion, la formation, c'est important, mais il a dit « on réprime ». Alors, liberté ou répression?
C'est quoi la liberté? C'est ça la question. Mais au Sénégal, je vous rassure, je crois que Madame Baldiagne, qui n'est pas un modèle de tranquillité d'ailleurs, avec son journal, qui n'est pas toujours très amical, nous avons au Sénégal vraiment une presse libre. Ça, quand même, ça ne dépend pas du président Macky Sall ou de qui que ce soit. C'est un acquis historique dans ce pays. Il n'y a pas un seul journaliste qui soit mis en prison pour des délits de presse, je dis bien délits de presse, ou pour des délits d'opinion. Ça n'existe pas. S'il y en a, on peut me le rappeler. En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Alors, nous n'avons pas de problème de liberté, peut-être même de trop de liberté. Ça, on peut être un problème de trop de liberté. Mais toujours est-il que dans notre pays, la presse vient d'installer elle-même un tribunal des pairs. J'étais là à l'installation, à cette cérémonie d'installation. Et j'ai pris l'engagement en leur disant, en ce qui concerne l'État, je peux vous dire que désormais, si nous avons des reproches à faire à des journalistes, nous nous adresserons au tribunal des pairs, pas au tribunal correctionnel, mais au tribunal des pairs. Et nous avons maintenant un code de la presse qui a été élaboré depuis plusieurs années, qui est à l'Assemblée nationale, bloqué, puisque le député avait estimé que c'était un code peut-être attentatoire également à la liberté de certains citoyens. Mais le groupe parlementaire qui est le nôtre a été donc invité à reprendre le document, et nous allons, nous-mêmes, gouvernement, reprendre le document pour le réintroduire, parce que ça date de 2010.
Donc 5 ans.
Voter le nouveau code de la presse qui consacre la dépénalisation des délits de presse.
Alors vous anticipez sur la question,
Monsieur le
Président. Mais en même
temps, il faut reconnaître qu'il y a parfois un problème d'abus. Les Sénégalais sont là, ils ne me demandent pas. Il y a un problème d'abus. La presse, c'est aussi l'équilibre dans l'information. Mais lorsque des non-journalistes s'invitent dans la profession, utilisent la profession comme un moyen de chantage, on n'est plus dans le journalisme. On n'est plus dans le journalisme. Donc, il ne faut pas que ces acteurs non journalistiques, ou en tout cas qui ont d'autres motivations, qu'elles soient politiques ou économiques, on voit aussi les hommes économiques, les acteurs économiques, qui ont des groupes de presse pour intervenir dans tel ou tel sens, pour obtenir tel ou tel marché, etc. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors, donc, il y a, je pense, urgence à voter le code de la presse qui consacre totalement la dépénalisation des délits de presse pour les journalistes. Et il y a une nécessité à quand même faire de la régulation sur le net, puisque derrière l'anonymat du clavier, parfois on détruit des vies. Et n'importe qui peut se réveiller, il prend son clavier, il crée un événement, il insulte tout le monde, et il suscite un dialogue derrière, et personne n'est responsable. C'est pas possible. Soit les responsables des sites doivent veiller quand même à ce que les informations qui sont contenues au moins soient tracées, au moins qu'on connaisse les auteurs, la moindre des choses. En ce moment, les gens, ils assument les opinions qu'ils émettent. Ou alors, il faut en tout cas c'est une réflexion, puisque nous n'avons encore rien fait sur la régulation en matière d'Internet, voir comment éviter simplement les dérapages. Mais déjà, Internet est dans nos mœurs, la presse en ligne, toute la presse est reprise, et nous avons un nouveau métier journalistique au Sénégal. Peut-être que l'UPF pourrait l'étudier, c'est la revue de presse. Alors, je ne sais pas comment on la qualifie. C'est les radios qui reprennent la presse, mais avec une théâtralisation extraordinaire parfois, qui suscite... Et c'est tout un métier nouveau. Je pense que tout ça mérite que peut-être des règles soient édictées pour éviter les abus. Mais nous sommes dans le régime de la liberté de la presse.
Alors, Monsieur le Président, permettez-moi d'insister. Vous avez dit que vous êtes avec la liberté. Vous l'avez dit aussi, le code de la presse qui prévoit la dépénalisation des délits de presse est au Parlement depuis 5 ans. Il y a une attente forte des journalistes professionnels sénégalais. Est-ce qu'il y a un calendrier précis pour que ce texte puisse passer?
Vous savez, il y a quand même un principe, c'est la séparation des pouvoirs. Sinon, j'aurais dit, je suis le chef de la majorité, mais il y a quand même un respect aussi pour le pouvoir parlementaire. Il faut qu'on négocie avec eux. Ça aurait été le gouvernement. J'ai dit, oui, la date, c'est ça. Je ne peux pas le faire s'agissant de l'Assemblée, puisque c'est elle qui avait... C'est même pas notre législature, c'est la législature précédente. Mais nous sommes toujours à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà politiquement informé notre groupe que nous souhaitons reprendre ce code et le faire adopter, puisque en définitive, il n'y a pas de péril. Dès lors qu'au Sénégal, on ne met pas les journalistes en prison, même s'ils font des délits de presse. Donc, au fond, on gagnerait au moins à avoir le code, puisque de toutes les façons, il n'y aura pas de journalistes en prison, en tout cas tant que je suis président de la République. Donc, on n'a rien à craindre. Mais le président de la commission des lois est là devant moi, l'honorable maître Djibril Ouar. J'en profite pour lui demander, le président de la commission des lois, de nous aider à faire adopter ou alors que le gouvernement reprenne le texte pour le réenvoyer conformément aux règles de procédure en vigueur.
Alors, c'est le Parlement qui agit sur le code de la presse, c'est la dernière question. Mais qu'en est-il? Il y a un autre domaine sur lequel le gouvernement peut agir directement, c'est les conditions d'exercice de la profession des journalistes. Il y a une convention au Sénégal, de convention collective, qui date depuis 20 ans. On parle aussi de la remettre au goût du jour et de préserver les droits des journalistes, notamment des droits au salaire convenable, des droits à un exercice de profession. Alors, la convention collective, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut s'engager devant cette assemblée de journalistes pour pouvoir justement la mener à terme et pouvoir améliorer les conditions d'exercice de profession journaliste? Merci.
Oui, certainement, cette convention qui date d'il y a plus de 20 ans, 25 ans, mérite d'être renouvelée. C'est clair que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions économiques qu'il y a 25 ans. Donc, je suis tout à fait favorable à ce que la presse publique, en tout cas l'audiovisuel public, la presse publique, engage cette discussion. Elle est d'ailleurs mieux outillée que la presse privée, il faut dire les choses. Les journalistes dans le public sont mieux traités. Donc, moi, j'invite également la presse privée à travailler de concert avec la presse publique pour qu'il y ait une amélioration globale de la convention collective des journalistes et techniciens de la communication. Mais il y a un aspect qui dépendait un peu du nouveau code, c'est-à-dire la carte de la presse. En fait, qui est professionnel de l'information? Ça, c'est une question de fond. Parce que voilà un métier où tout le monde vient et rentre du jour au lendemain, sans qualification, sans formation. Quand même, pour être médecin, il y a une procédure. Pour être infirmier, il y a une procédure. Pour être même chauffeur, il faut aller passer le permis de conduire avant de prendre un véhicule. Et pour être journaliste aujourd'hui... Et ça, ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent défendre leur métier. On ne peut pas laisser tous ceux qui sont recalés, même du brevet ou du bac, se réveiller. Ils se réveillent avec des titres. Non, c'est un problème sérieux. Et ce problème, la presse elle-même l'a bien identifié. Et dans le cadre de la nouvelle convention, il est défini, en tout cas, des dispositions pour avoir accès à la carte de la presse. Et à partir de ce moment, il sera plus facile vraiment d'améliorer de manière sensible les conditions de vie et de travail des journalistes. Parce que ce sera un nombre plus maîtrisé, plus limité. Les autres, nous sommes prêts à offrir des formations. Nous l'avons dit dans l'aide que l'État fait, que nous avons une aide à la presse, pour le moment qui est de 1 million et quelques d'euros, disons 700 millions de francs CFA, qui devrait aller peut-être au moins à 1 milliard dans un premier temps, l'année prochaine, et nous pourrons l'augmenter régulièrement. Nous avons aussi fait des abandons de dettes pour la presse, une dette fiscale abandonnée, ce qui n'est pas très citoyen, mais enfin, il fallait le faire, parce que la presse a besoin d'être soutenue, et il y a d'autres choses, d'autres aspects que nous sommes en train de regarder avec les éditeurs de presse pour justement faciliter les conditions d'exercice du métier, qui est un métier difficile, il faut le reconnaître, qui est un métier risqué. Les journalistes font partie des métiers les plus exposés au monde. Et c'est encore eux qui payent le plus lourd tribut dans les zones de guerre, dans les zones de conflit et partout ailleurs. Donc, nous sommes d'accord qu'il faut les protéger et il faut les mettre dans les meilleures conditions. À ce niveau, mon gouvernement n'a aucun problème pour vraiment faire le maximum qui soit pour que la presse sénégalaise, en tout cas, continue à être une presse libre, mais une presse de qualité comme elle l'a toujours été par le passé.
Pape Madi Diop.
Voilà, merci Kouchner. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, juin 2015, c'est la date que se sont fixées plusieurs États pour donc exercer la mutation technologique vers le numérique. Alors, vous l'avez dit, les coûts pour la réussite de cette mutation restent très élevés. Pour le cas précis du Sénégal, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va être mis en place pour que le Sénégal soit au rendez-vous de 2015? Et pour entrer dans les détails, Monsieur le Président, le démarrage de la télévision numérique terrestre, il y a un problème, il y a une crainte qui est là, un risque réel pour la production des contenus audiovisuels. Est-ce que l'État peut accompagner les télévisionnels au début, tout au début de ce basculement, Monsieur le Président?
Je pense que le passage au numérique pour la TNT, c'est une obligation. L'Union internationale des télécommunications a décidé que c'est juillet 2015 et le Sénégal sera au rendez-vous. Nous avons mis en place un instrument qu'on appelle le Content. C'est une commission nationale chargée de la transition de l'analogique vers le numérique. Voilà, bon, voilà le Content, comme si on était content. Bon. Voilà, donc le Content a fait un important travail. Et c'est un de vos collègues journalistes, confrères, Babacar Touré, président du CNRA, Conseil national de l'audiovisuel, qui préside, que j'ai désigné pour présider ce Content, c'est-à-dire cette commission nationale, qui a déjà fait un travail remarquable, qui a proposé au gouvernement le schéma de transition. Et nous avons sélectionné une télévision sénégalaise privée, enfin des professionnels sénégalais, qui feront en tout cas le passage et un certain nombre de tâches qui leur ont été définies dans le cahier des charges. L'État lui-même a déjà créé les conditions pour la télévision publique, la RTS, d'être au rendez-vous. Je dois dire qu'à l'occasion de ce sommet, la RTS a été dotée, monsieur le directeur général ne me démentira pas, de 7 milliards, ce qui a permis l'acquisition aujourd'hui de matériaux extrêmement modernes, numériques, et il donnera les caractéristiques. En tout cas, ce sont des bus de transmission, d'émission et de réception numérique, ainsi qu'un certain nombre de matériel qui permettra à cet outil national d'être au rendez-vous en juillet. C'est 3 milliards, ce n'est pas 7. Ça veut dire que je vous dois 4. Bon, donc c'est 3 milliards, je corrige, comme ça je ne dois plus rien. Oui, pour les contenus, c'est vrai que la question s'est posée. Alors, comment on passe au numérique? Nous aurons une plus grande capacité de diffusion, des canaux plus nombreux. Donc nous aurons une capacité démultipliée par X. En tout cas, mais tout cela mérite quand même qu'on regarde les contenus, puisque il n'y a pas que des saints sur Terre. Il y a des gens aussi qui ont d'autres motivations. Vous avez les risques terroristes, vous avez toutes sortes de propagandes qui peut passer par ces canaux et qui atterrissent directement chez les citoyens. Nous devons protéger nos enfants, avec les risques pédophiles et tout ça. Il faudra que l'on définisse une sorte de boîte de démultiplexage quelque part où il serait possible, lorsqu'il y a danger, qu'on puisse au moins arrêter tel ou tel programme, mais en relation avec les professionnels, ce sera une affaire de professionnels, l'État jouera un rôle très marginal, mais quelque part, il faudra quand même une surveillance des contenus, puisqu'il y va de la protection de nos citoyens et surtout de nos enfants.
Monsieur le Président, si vous permettez, sur la question des contenus, il y a évidemment cet aspect de protection, mais il y a aussi un aspect qui est un aspect de promotion. Autrement dit, est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'arrivée d'investisseurs qui sont intéressés par les aspects commerciaux des nouvelles télévisions et qui sont prêts à inonder, je dirais, les ondes de feuilletons à bas coût qui viennent de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut encourager plus la production réelle, nationale, représentant la culture de chaque pays concerné?
Donc vous posez là un vrai problème que nos sociétés connaissent depuis très longtemps. Vous vous rappelez le débat à l'UNESCO déjà sur la nécessité de protéger la culture, l'information. Il y avait un terme consacré qui ne me vient pas. Hein? C'était le nouvel ordre mondial de la communication, de l'information. Mais il se prolonge jusqu'à présent. Je pense que même au niveau européen, il y a eu un débat assez houleux sur la nécessité de protéger la culture, le cinéma, face aux géants d'Hollywood, face à tous ces capitaux qui ravagent tout. De la même façon, nous avons besoin, nous, de protéger une certaine production locale, parce que diversifiée, parce que enrichissante. Et c'est la diversité qui fait la richesse, quelque part, nos États, notre organisation commune de la francophonie doivent veiller à ce que les productions locales soient promues et protégées. Donc promotion, oui, protection également, dans une certaine mesure, parce qu'il y va aussi de notre identité culturelle, de notre identité tout court, pour que, quelque part, nous puissions nous-mêmes promouvoir ce que nous sommes. Et c'est un peu le sens du banquet, du donner et du recevoir, si cher au président Senghor, c'est de donner, mais aussi c'est de recevoir. Et c'est dans ce mélange que nous arrivons à trouver l'équilibre dans la société donc moderne